Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux travaux déductibles des impôts. Alors, nous sommes encore en pleine période de déclaration des revenus et si vous avez de l'immobilier, si vous avez de l'immobilier en location nue, vous allez devoir remplir le formulaire de déclaration des revenus fonciers, formulaire 2044. Alors, les travaux, c'est intéressant parce que ça permet de déduire énormément et ça permet de réduire considérablement l'impôt qu'on devra payer sur les revenus fonciers, voire parfois de l'annuler complètement sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui était consacré à l'ensemble des charges déductibles des impôts hors travaux, c'est-à-dire tout ce dont on ne va pas parler aujourd'hui, puisque là, cet épisode est vraiment ciblé sur la partie travaux. Alors, c'est vrai que quand on fait des travaux, on ne sait jamais si c'est déductible ou pas. Alors là, je vais vraiment vous lister tous les cas des travaux déductibles et vous indiquer également tous les travaux qui ne sont pas déductibles au sens de la réglementation. Donc voilà. Donc je précise simplement que les exemples de travaux qui vont être donnés dans cet épisode du podcast ne constituent pas en soi une liste exhaustive des travaux. On ne peut pas lister en soi l'ensemble des travaux possibles que l'on peut faire dans un appartement ou dans une maison. Donc simplement, il vous appartiendra d'étudier au cas par cas les catégories de travaux qui seront déductibles ou non de vos impôts. Donc, il faut savoir avant de commencer que la date à prendre en compte pour l'année fiscale sur laquelle peut s'appliquer la déduction est l'année où les travaux ont été effectivement payés. Donc voilà, les travaux déductibles des impôts, ils vont être indiqués dans la case 224 de la déclaration des revenus fonciers. Il s'agit en fait de dépenses qui vont uniquement concerner la réparation, l'entretien ou l'amélioration du bien. Alors qu'est-ce qu'on entend par réparation, entretien et amélioration? Alors pour identifier ces travaux qui sont déductibles, le Code général des impôts distingue trois catégories. Alors, les travaux qui vont être liés à la réparation ou l'entretien sont déductibles. Les travaux d'amélioration, on l'a vu, également sont déductibles. En revanche, tout ce qui concerne la reconstruction ou la construction ou l'agrandissement ne constitue pas des travaux déductibles. Voilà. Dès que vous avez à construire, reconstruire ou agrandir, ben dans ce cas-là, ces travaux ne seront pas déductibles. Tout le reste des travaux, vous avez à réparer un élément existant, à entretenir des éléments existants. Vous avez des dépenses liées à l'amélioration sans l'agrandir. Dans ce cas-là, tous les travaux seront déductibles. Alors, on va aller en profondeur dans ces travaux qui sont déductibles en vous citant des exemples pour chaque catégorie. Alors, sachez qu'à tout moment, l'administration fiscale pourra vous demander des justificatifs, des déductions. Alors, veillez bien à conserver en fait toutes les factures des travaux. Et ça, c'est très important, puisque en cas de contrôle, comme ça, vous pourrez montrer ces factures. Alors, pour commencer, on va parler des dépenses d'entretien et de réparation. Alors, globalement, ces dépenses, en fait, elles vont correspondre à tout ce qui est travaux permettant de maintenir ou de remettre un bien en l'état et de permettre un usage normal, c'est-à-dire conforme à sa destination. Donc, la destination, bah, c'est par exemple le logement, sans modification de l'agencement ou de l'équipement initial. Donc, les dépenses d'entretien s'apparentent en général aux dépenses de maintien en bon état du bien et les dépenses de réparation, celles qui correspondent plus à des opérations courantes d'entretien qui constituent la réparation, la remise en l'état, la réfection ou le remplacement d'équipements, voilà, qui peuvent être défectueux pour les rendre tout simplement opérationnels et utiles pour le bien. Attention en tout cas, parce que si vous avez des dépenses d'entretien et de réparation qui constituent l'accessoire de travaux de reconstruction ou d'agrandissement, dans ce cas-là, bah, ces dépenses ne sont pas déductibles. Donc il faudra bien faire le distinguo en fait entre les travaux d'agrandissement et de reconstruction et les travaux justement de réparation de l'existant qui eux sont déductibles. Donc voici à titre d'exemple une liste de dépenses qui peuvent constituer des travaux en fait déductibles, enfin une liste de travaux qui peuvent constituer plutôt des dépenses déductibles liées à l'entretien. Donc on va lister tout ce qui est dépenses engagées pour ce qui est magasin de bricolage, si on a de la peinture, Voilà, un robinet, une serrure à changer, tout ça, si vous l'achetez dans un magasin de bricolage, c'est déductible. La réfection des plafonds, des planchers et de l'escalier. Les dépenses de recherche ou d'analyse liées à l'amiante. Ça peut être aussi des dépenses de recherche ou d'analyse rendues obligatoires par les réglementations, telles que tout ce qui est diagnostic relatif au risque d'exposition au plomb, à la sécurité des installations intérieures de gaz, d'électricité, tout ce qui concerne les performances énergétiques. Voilà. Également, tout ce qui est traitement des bois contre les insectes mangeurs de bois, les insectes xylophages, comme les termites ou les capricornes. Également, la part de dépenses payée au titre d'un contrat d'entretien d'un ascenseur restant à la charge du propriétaire. Voilà, tout ça, ce sont des exemples qui correspondent à des travaux d'entretien. Également, on peut citer quelques exemples qui correspondent à des travaux plutôt de réparation. Dans ce cas, par exemple, un robinet défectueux à changer, un ballon d'eau chaude à remplacer, la remise en état d'un gros œuvre, comme une toiture ou une façade, des canalisations, de l'installation électrique, voilà. La remise en état de l'installation de chauffage central, par exemple, avec le remplacement des canalisations et des radiateurs. Tout ce qui est frais de remise en état d'une cuisine aménagée existante, bien entendu, au sens de l'administration fiscale, hors dépenses de remplacement des appareils électroménagers considérés comme des dépenses d'investissement. Donc là, pour le coup, qui ne sont pas déductibles. On peut citer également tout ce qui est remise en état, des murs, des plafonds, des planchers, d'un escalier, des travaux de réfection des enduits extérieurs, voilà, tout ce qui est ravalement de façade, les travaux de remise en état de la toiture, ravalement, crépissage des murs, etc. Peinture extérieure, peinture intérieure, tout ce qui est lié à la remise en état aussi d'une partie de la construction suite à une détérioration liée par exemple à une malfaçon constatée dans la construction. Et également, pour finir, tout ce qui est lié à la remise en état ou des travaux dits confortatifs des immeubles à la suite d'une catastrophe naturelle pour la part réellement supportée, c'est-à-dire qui n'est pas prise en charge par une assurance. Voilà. Pour ce qui concerne maintenant les dépenses d'amélioration. Alors, ces dépenses vont davantage correspondre à tout ce qui peut apporter un équipement ou un élément de confort nouveau à l'appartement ou à la maison, ou mieux adapté aux conditions de vie moderne du bien. C'est comme ça qu'on le définit dans la réglementation. Donc, ces dépenses, en fait, théoriquement, dans la réglementation, est stipulé qu'en principe, elles ne devraient pas être admises en déduction dans le cadre de la détermination du revenu net foncier. Néanmoins, on nous dit que certaines dépenses associées à des travaux d'amélioration sont déductibles. Et donc, voilà, j'ai listé justement quelques exemples de travaux d'amélioration qui sont déductibles. Alors, on peut citer par exemple l'installation d'un double vitrage, l'agrandissement des fenêtres, les dépenses de travaux associées à tout ce qui est aménagement de nouvelles installations sanitaires sans accroissement du volume ou de la surface habitable, également la pose de sanitaires, l'installation d'une salle d'eau, la réfection, tout ce qui est peinture, donc l'ajout d'une nouvelle peinture, de manière à aménager l'appartement dans ses volumes existants. Et donc tous ces travaux d'amélioration, en fait, ne concernent pas le gros œuvre et n'entraînent pas d'augmentation de surface habitable. Ça, il nous le reprécise bien à chaque fois au niveau de la réglementation. Donc voilà, il est important de noter que toutes les dépenses correspondant à des travaux de construction, d'agrandissement ne sont jamais déductibles en tant que telles. Donc voilà, si ça vous arrive que vous avez à la fois à faire un travaux d'agrandissement et à la fois des travaux de réparation de l'existant ou d'amélioration de l'existant, il suffira en fait pour pouvoir déduire tout ce qui est charge de travaux liés réparation, entretien ou amélioration, de faire des factures séparées. Il faut vraiment faire des factures qui sont très dissociées de la partie agrandissement. Parce que même si le fisc prévoit un principe dit de dissociation, c'est-à-dire qu'il laisse en fait, il laisse à l'administré le pouvoir de déduire une partie des travaux qui sont liés à la réparation, etc., et une autre partie lié à la dissociation d'une même facture, voilà, si vous ne pouvez pas prouver en fait qu'il y a vraiment une dissociation des travaux et qu'il y a bien une partie agrandissement qui est distincte d'une partie réparation de l'existant, bah, il risque tout simplement de vous dire, bah voilà, votre facture en tant que telle, elle n'est pas déductible. Donc le mieux, c'est vraiment de faire des factures bien séparées, bien définies, avec une partie agrandissement, reconstruction qui ne sera pas déductible et une partie voilà, dépenses de réparation de l'existant, d'entretien, etc., de l'existant, qui, elles, seront déductibles. Voilà, prenons le cas maintenant particulier des dépenses d'amélioration destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Alors, les travaux destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées peuvent être admis en déduction dans leur totalité, en fait. La notion d'accueil des personnes handicapées est à prendre au sens large. Elle s'applique aussi bien à la présence continue de personnes handicapées qu'à l'accueil temporaire de ces personnes, ça peut être des visiteurs ou des usagers. Donc voici quelques exemples simplement de travaux déductibles des impôts. On peut citer par exemple la construction d'une rampe pour doubler ou remplacer une marche, également l'élargissement d'un chemin qui mène à un portail d'entrée ou à une entrée, l'amélioration du revêtement du sol ou du sol en lui-même, tout simplement pour éviter que le sol soit glissant, hein. C'est par exemple un revêtement anti-adhérent. Tout ce qui est élargissement, aménagement des places de parking destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées, tout ce qui est modification de l'aménagement intérieur et de l'équipement des pièces d'eau, cuisine, buanderie, voilà, pour justement améliorer l'accès et permettre l'accès aux personnes handicapées. Également les travaux d'adaptation, de modification pour tenir compte des différences sensorielles, qu'elles soient voilà, au niveau visuel, auditif, hein, peu importe la dysfonctionnement sensoriel, et également tout ce qui est dépenses pour activer des systèmes de commande spécifiques avec des signalisations ou des alarmes tactiles, lumineuses ou sonores, voilà, en fonction des types de handicap qu'il peut y avoir. Autres travaux déductibles des impôts sont les travaux de copropriété. Ils seront annotés dans la case 229 de la déclaration des revenus fonciers 2044. Donc voilà, encore une fois, si vous louez en copropriété, vous avez un appartement, le syndic vous fournit un relevé de charges et vous pouvez identifier la partie travaux, justement la partie travaux déductibles, qui correspondent aux travaux de copropriété qui seront précisés dans ce relevé et vous n'aurez qu'à ajouter ces montants aux charges déjà déductibles au niveau de la case 229. Alors maintenant une partie qui vous explique comment fonctionne le fameux déficit foncier. Le déficit foncier, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant pour l'investissement immobilier. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup en tant qu'investisseur car c'est grâce à lui justement qu'on va pouvoir annuler complètement l'impôt sur le revenu foncier pendant plusieurs années. Donc voilà, je vais vous expliquer en quoi consiste ce fameux déficit foncier. Donc en fait, si vous avez des gros travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration, ces travaux, bien entendu, vont être en déduction de vos revenus fonciers et peuvent créer un déficit foncier, c'est-à-dire un résultat net négatif. Prenons un exemple, si vous percevez par exemple 10 000 euros de loyer dans l'année et que vous avez fait 15 000 euros de travaux déductibles des impôts et que l'ensemble des charges déductibles, donc vous avez rajouté tout ce qui est intérêt d'emprunt, charges de copropriété, primes d'assurance, voilà toutes les charges déductibles en plus des travaux, qui représentent à peu près on va dire 2 000 euros, voilà, vous avez un déficit finalement. Donc vous prenez 10 000 euros vos revenus, moins 15 000, moins 2 000, ça vous fait moins 7 000 euros. Donc sachez que tout déficit foncier compris entre 0 et 10 700 euros sera déduit pour l'année en cours, puisque en fait les premiers 10 700 euros se transforment en déduction immédiate. Ces premiers 10 700 euros, en fait, ils vont être tout simplement déduits des revenus non fonciers, c'est-à-dire des revenus que le contribuable aura déclaré. Par exemple, si vous avez déclaré votre revenu de salarié, bah, ils seront déduits de ces revenus de salarié. Donc c'est pas comme ça que vous allez pouvoir annuler vos impôts fonciers, c'est avec des montants beaucoup plus importants qui, à ce moment-là, vont pouvoir être reportés justement à l'année d'après et à l'année d'après encore, jusqu'à un certain nombre d'années qui est autorisé. Imaginons que vous avez fait 50 000 euros de travaux. Donc ce déficit va pouvoir se reporter, hein, on parle d'un déficit provisionné, d'un déficit reportable, il va pouvoir être utilisé et se reporter les années suivantes pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, potentiellement, vous pouvez être exonéré d'impôts grâce à ce déficit foncier, ce qui est quand même très intéressant en tant qu'investisseur immobilier. Voilà, pour conclure, avant de vous lancer dans votre déclaration d'impôt, collectez toutes les factures des travaux qui concernent la réparation, l'entretien ou l'amélioration. Vous pouvez calculer le montant total correspondant. Si vous avez beaucoup de factures, moi ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est un tableau Excel dans lequel vous sommerez en fait les montants des travaux déductibles. Une fois ce travail réalisé, vous n'aurez plus qu'à vous reporter en fait, reporter le montant total dans la case 224 de la déclaration des revenus fonciers. Si vous avez un doute concernant la déductibilité des travaux, vous pouvez toujours consulter le BOFIP. Donc c'est le bulletin officiel des finances publiques. Je vous mettrai le lien en référence dans cet épisode du podcast. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous sera utile si vous êtes justement dans cette période de déclaration de vos revenus et notamment de vos revenus fonciers. N'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger mes guides sur l'investissement immobilier si vous souhaitez vous aussi investir dans l'immobilier, réussir votre premier investissement rentable et sans stress. Je propose également un e-book qui vous montre comment j'ai réussi à investir dans l'immobilier pour un patrimoine de plus de 500 000 euros en moins d'un an, sans apport et en partant de zéro. Voilà, je vous explique comment j'ai fait. Vous pouvez également le télécharger sur mon blog qui s'appelle investissementimmobilierfacile.com. Voilà, c'était dit. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ciao.